Il est 2h30 à Addis Abeba, 22h30, temps universel. Merci d'écouter Radio France Internationale.
Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. La Commission de l'Union africaine a un nouveau président, le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, élu cet après-midi lors d'un vote serré à Addis Abeba. Il succédera au Tchadien Moussa Faki Mahamat, dont le second mandat s'achève le 15 mars prochain. Toujours à Addis Abeba, le conflit dans l'est de la RDC, au cœur du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, qui a débuté ce samedi, alors que sur le terrain, l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, poursuit sa progression dans la province du Sud Kivu. Et puis, début de 5 jours d'assises nationales à Niamey au Niger. Elles sont censées fixer la durée de la transition en cours depuis le coup d'État perpétré en juillet 2023. Cérémonie d'ouverture présidée ce samedi par le général Abdourahmane Tchiani, chef de la junte au pouvoir. Le candidat djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, élu donc président de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba cet après-midi, l'actuel ministre des Affaires étrangères du président djiboutien, succédera au Tchadien Moussa Faki Mahamat, dont le second mandat à la tête de l'organisation s'achève le 15 mars prochain. Mahamoud Ali Youssouf a été élu au 7e tour avec 33 voix sur 49. Jusqu'au bout, Florence Boris, la compétition a été serrée.
Le suspense a duré et c'est vers 18h que des applaudissements ont retenti et qu'est tombée la nouvelle de l'élection du candidat djiboutien avec 33 voix sur 49. Il obtient tout juste le nombre de votes requis pour être élu, vous l'avez dit, après 7 tours et une bataille serrée. Au premier tour, c'est le Kenyan Raila Odinga qui était en tête avec 20 voix, mais le candidat djiboutien progressivement est remonté en bénéficiant notamment du report des voix du candidat malgache éliminé après le 3e tour. Finalement, rétrogradé deuxième à la fin du 6e tour de vote, Raila Odinga, le Kenyan, a dû se retirer comme le prévoient les statuts de l'Union africaine. Le candidat kenyan se présentait pourtant comme le favori. Il pouvait notamment compter sur le soutien de l'EAC, sa renommée internationale, mais il a certainement pâti de son âge. Il a 80 ans. À l'inverse, Mahamoud Ali Youssouf est relativement jeune, 59 ans. Il est familier aussi des arcanes de l'Union africaine qu'il pratique depuis 20 ans en tant que ministre des Affaires étrangères de son pays, Djibouti. Il parle également 3 langues, anglais, français et arabe. C'est un jour historique pour notre pays, se félicite ce soir Oumed Daoud Abdallah, le porte-parole de la majorité présidentielle de Djibouti.
Florence Maurice, envoyée spéciale à Addis Abeba, j'ajoute que l'Algérienne Selma Haddadi a elle été élue au poste stratégique de vice-présidente de la commission. Elle obtient la victoire avec 33 votes sur les 2 autres candidates, marocaine et égyptienne. Et puis toujours à Addis Abeba, le conflit dans l'est de la RDC au cœur du sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui a débuté ce samedi, alors que l'AFC M23, soutenu par l'armée rwandaise, continue son avancée au sud Kivu. La situation à Bukavu, capitale de la province, est incertaine. Les rebelles ont été signalés dans la ville, information confirmée par une source gouvernementale congolaise. L'AFC M23 ne revendique pas la prise de contrôle de Bukavu, mais demande aux habitants de s'organiser. Et Pauline Azidi, du côté de la communauté internationale, beaucoup de réactions d'inquiétude sur la situation dans la région.
Il faut éviter à tout prix une escalade régionale, a prévenu Antonio Guterres lors d'une prise de parole au sommet de l'Union africaine. Le secrétaire général des Nations unies s'alarme encore une fois de l'avancée du M23 et de l'armée rwandaise. Déjà après la prise de Goma, il avait évoqué ce risque d'un conflit régional. Réaction vive aussi du côté de l'Union européenne, alarmée par la nouvelle selon laquelle le M23 soutenu par le Rwanda a pris Kavumu et est entré à Bukavu, ignorant les appels au cessez-le-feu. L'UE examine d'urgence les moyens à sa disposition, promettant que la violation de l'intégrité de la RDC ne restera pas sans réponse. Condamnation aussi de l'Allemagne, de la France ou encore de la Belgique qui appellent à la fin de l'offensive, au retrait du Rwanda et au respect de l'intégrité territoriale. Ces pays font part de leur inquiétude quant à l'aggravation de la crise humanitaire. Silence en revanche sur le continent. Si hier, à la tribune de l'UE, Moussa Faki Mahamat, désormais ex-président de la Commission, a réclamé l'application du cessez-le-feu, aucun dirigeant africain n'a encore officiellement condamné cette nouvelle avancée. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et la situation reste confuse sur le terrain. Certains habitants ont préféré quitter la ville de Bukavu. C'est le cas de Tatiana Mukanire, qui dirige une association de victimes d'exactions sexuelles. Mais elle maintient cependant un contact permanent avec ses proches et amis restés sur place. Voici les dernières informations qu'elle a pu obtenir.
sur Bukavu, il y a une grande confusion parce que la population ne sait même pas savoir si c'est l'M23 qui est là ou c'est l'armée et le FARDC qui sont là. En fait, c'est vraiment l'anarchie totale. Les derniers deux militaires congolais, ils sont en train de quitter la ville. C'est la dernière information que j'avais sur la colline de Dilisewima. C'est juste dans la ville de Bukavu. Et il y avait des militaires qui prenaient la route, juste ils essayaient de se sécuriser. Ils prenaient la fuite, bien sûr. En fait, il y a de ces quartiers dans la ville de Bukavu où les gens ne sortent pas. Ils ont peur. Je maintenant deux images venant de l'entrepôt de la PAM qui a été pillée. Et sincèrement, ça va être une grande désolation pour toute la communauté et toute la population de Bukavu.
Propos recueillis par Amira Swilem. 18 mois après l'arrivée des militaires au pouvoir, première journée des assises nationales au Niger. Lors de son discours d'ouverture, le général Abdourahmane Tchiani, le chef de la junte au pouvoir, a réaffirmé que la durée de la transition serait fixée à l'issue de ces assises nationales. Après la cérémonie d'ouverture, à laquelle étaient présents gouverneurs, leaders religieux, représentants de la société civile et des délégations du Burkina Faso et du Mali, les 5 commissions se sont réunies pour le début des travaux. Les précisions de Eva Massi.
Devant une salle comble, le général Abdourahmane Tchiani a ouvert ses assises nationales sur un court discours, retransmis à la télévision nationale, dans lequel il a rappelé les objectifs de l'événement.
1. Définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. Définir la période de la transition. 3. Définir les priorités nationales durant la transition. 4. Rappeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République.
Le chef des militaires au pouvoir a ensuite précisé que si l'organisation de ces assises avait pris autant de retard, c'est parce que le Niger fait face, je cite, « à l'animosité de certaines puissances occidentales et leurs complices africains ». Abdourahmane Tchiani est ensuite reparti au palais et les 5 commissions se sont réunies pour se mettre au travail. Des délégations officielles du Burkina Faso et du Mali étaient présentes, ainsi que l'ancien président Issoufou Mahamadou, qui s'est ensuite envolé pour le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Quant à l'ancien premier ministre Ibrahim Hassan Mayaki, dont la présence était annoncée, il était finalement absent, tout comme les représentants des partis politiques suspendus depuis juillet 2023.
Eva Massi. L'élection des sénateurs du Togo s'est tenue ce samedi. Ce vote parachève la mise en place des nouvelles institutions prévues par le changement constitutionnel amorcé l'année dernière. Changement d'ailleurs vivement critiqué par l'opposition. Pour mémoire, la nouvelle constitution adoptée par les députés en avril dernier abolit l'élection du chef de l'État au suffrage universel et institue un régime parlementaire. L'opposition et la société civile il voit un moyen pour l'actuel chef de l'État, Faure Gnassingbé, de se maintenir indéfiniment au pouvoir. La multiplication des messages et discours de haine en ligne inquiète les autorités du Burkina Faso. Les auteurs de ces messages s'exposent à la rigueur de la loi, prévient le ministre de la Sécurité. Les précisions d'Amélie Tulé.
Le commissaire divisionnaire de police, Mahamadou Sana, dit avoir constaté que des messages à caractère haineux faisant l'apologie de la violence, de la stigmatisation et de la division sont diffusés sur les réseaux sociaux. Certains internautes y appellent ouvertement à l'extermination de certaines communautés en les qualifiant de terroristes. Ce type de discours met à mal la paix et la cohésion entre Burkinabés, peut-on lire dans le communiqué du ministre de la Sécurité. Il rappelle que les auteurs d'incitation à la haine, à la discrimination ou au conflits entre communautés s'exposent à des sanctions. Le ministère prévient que le principe de tolérance zéro sera appliqué face à ceux qui cherchent à semer la discorde et à saper le combat collectif contre le terrorisme. Mais si message de haine il y a, cela provient d'activistes qui disent soutenir le régime en place, souligne un spécialiste des médias en ligne. Il ajoute que personne dans ce pays ne peut diffuser un message à caractère violent s'il ne bénéficie pas de la protection du régime.
Amélie Tulé, au moins 48 morts, c'est le bilan provisoire de l'éboulement sur un site d'orpaillage dans la région de Kaï, au Mali. L'accident est survenu ce samedi, selon le syndicat des mines. Le site était surchargé de monde et certains faisaient de l'orpaillage clandestin. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. Pour rappel, il y a un peu plus d'un an, un éboulement avait fait plus de 70 morts dans une mine d'or du sud du pays. Fin janvier, au moins une dizaine d'orpailleurs, majoritairement des femmes, ont été tuées à la suite de l'effondrement d'une mine toujours dans le sud du pays. Il est 23h40 à Paris.